Ça fait pas deux minutes qu'il est assis que déjà on a une conversation fascinante avec un fascinateur. Remarquez, vous allez me dire, c'est quasiment normal. Mesmer est avec moi. Salut.
Salut.
Ça fait un petit moment qu'on t'a pas reçu parce que t'es un peu partout. T'es beaucoup à la télé. Pardon, ici en France. Tu as sorti ta biographie, Comment l'hypnose a changé ma vie, en début d'année. C'est fascinant parce que c'est un mot que tu dois entendre souvent autour de toi. C'est vrai que c'est fascinant, ce parcours.
Ouais.
Mesmer. Eric, devrais-je dire? Parce que là, on connaît ton nouveau. J'ai voulu garder
ça privé pendant plusieurs années. Hein. Je voulais avoir Mesmer et ma vie privée. Éventuellement, avec les médias sociaux aujourd'hui, ça a sorti. Bon, mais son vrai nom, c'est ça. Puis là, t'as beau aller sur Wikipédia, enlever le Eric Normandin de moi à côté. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui revient, qui le ramène.
Mais tu voulais pas, parce que. Puis je vais continuer de t'appeler Mesmer. Ça va être plus simple. Tu voulais pas parce qu'il y avait des gens quand même un peu particuliers aussi qui avaient des demandes.
Ouais.
Ils voulaient que tu les sauves de leurs problèmes.
En connaissant mon nom privé, mon nom de naissance, c'est que c'est plus facile de trouver dans les registres mon adresse et des trucs comme ça. Et là, je me retrouvais avec des gens qui arrivaient chez moi qui pensaient que j'étais un guérisseur, qui voulaient que je guérisse leur enfant. Et c'est un peu pour ça que j'ai gardé ça privé pendant longtemps. C'est un homme de famille, un père de famille qui arrive avec sa petite fille de 6 ans. Et j'étais en train de faire du barbecue avec ma famille un dimanche après-midi. Puis là, en rentrant dans ma cour, en arrière de la maison, il a passé sur le terrain, il est arrivé en arrière, puis il dit oh, « Regarde, chérie, c'est lui qui va te guérir, le monsieur.
Oh,
va
mon
te... Écoute, comment tu veux réagir à ça? La petite fille est là, puis elle pense que je suis un dieu, là, mais c'est pas ça. »
Et pourtant, c'est pas parce que tu l'as pas expliqué, t'as jamais prétendu que... toujours dit, c'est même pas un don. Ce que je fais, c'est une technique.
C'est des techniques que j'ai développées avec les années, tout ça, mais les gens continuent, même si tu fais des médias à répétition, le message, des fois, c'est long à passer. Moi, je fais pas de thérapie maintenant, parce que je l'ai fait longtemps, j'avais un cabinet, mais on peut traiter des trucs avec l'hypnose, mais il y a une certaine limite, là, tu sais, éventuellement. Je suis du genre de personne à dire, si on peut combiner la technique de la pensée, par exemple, la force de l'esprit, avec la médecine traditionnelle, on peut faire des miracles avec ça. Et là, maintenant, les scientifiques s'y penchent de plus en plus. On le voit que notre cerveau a la capacité de sécréter la bonne chimie, par exemple, pour nous aider à cicatriser les cellules de notre corps, la peau, des trucs comme ça. Là, ouais. ça peut marcher, hein, la force de l'esprit et la médecine traditionnelle peut faire des miracles, je pense.
Ouais. As-tu d'autres dons?
J'ai pas de dons.
Mais ça finit par en être un de maîtriser cette technique.
C'est comme le don de chanter.
Est-ce que tu arrêtes le sang? Est-ce que tu...
J'ai expérimenté certaines affaires dans ma vie, comme marcher sur les braises rouges, là, marcher sur le feu, des trucs comme ça. J'ai fait ça souvent. Arrêter le sang ou guérir des brûlures. J'ai fait ça avec mon ex, qui à l'époque s'était brûlé au troisième degré. Et avec la force de pensée, avec la concentration, ça a pris 3 semaines à guérir au lieu de 3 mois. Alors oui, on peut régénérer des tissus du corps et l'esprit nous aide à faire ça. L'hypnose est une technique qui nous permet d'atteindre cette zone du subconscient qui peut nous aider à améliorer notre santé. Mais il y a d'autres techniques comme la sophrologie, par exemple, ou la méditation.
C'est quoi la sophrologie?
C'est apprendre à maîtriser justement les fréquences de notre cerveau, à descendre en alpha au niveau du subconscient, tout en étant conscient d'être là. Alors on peut vaquer nos occupations, aller au boulot, mais c'est notre subconscient qui est là. Et à ce moment-là, tu es proche de ton instinct, ton corps se régénère, parce que 15 minutes en état sophronique, on appelle ça comme ça, ça équivaut à 3 heures de sommeil environ. Alors, juste pour ça, ça vaut le coup d'apprendre à maîtriser cette puissance qui est là.
Tu le fais, toi, pour toi? Tu te sophrolises?
Oui, mais je rentre facilement en transe avec les techniques de sophrologie que j'ai apprises, et je peux rester vacant, conscient de ce qui se passe. Quand j'arrive sur scène, je suis là, je suis dans un état second, mais les gens qui ne me connaissent pas, mais ne voient pas la différence. Ma famille le sait, par contre, quand j'arrive dans cette concentration-là, je suis au niveau du subconscient. À ce moment-là, j'ai appris à faire ça rapidement.
Moi, je pourrais faire ça. Les gens qui nous écoutent pourraient faire
absolument.
Ça aussi?
Absolument. Moi, j'ai suivi des cours là-dessus, des séminaires de sophrologie dynamique. Le mot dynamique le dit, c'est qu'on reste dynamique dans un état de méditation. Et ça, c'est un bénéfice qu'on doit tous apprendre. Et je pense qu'on devrait déjà, même au primaire, apprendre ça à nos enfants parce que la concentration, souvent l'échec chez un enfant ou un adolescent, c'est le stress. Mmh. Et le stress empêche l'information du subconscient qui est là, de remonter au conscient pour refaire un examen qui a de l'allure, par exemple. Alors, tout ce qu'on a appris dans l'année, ça reste imprégné dans notre subconscient. Et quand on est détendu devant un examen, mais hop, les réponses remontent plus facilement. Alors, d'apprendre à se détendre dans un état où apprendre à atteindre ce subconscient-là tout en étant conscient, mais c'est bénéfique, hein, même pour tout le monde. Mais les étudiants, entre autres, là, ça pourrait les aider à avoir des meilleures notes. Et mon fils, entre autres, mon plus jeune, avait un petit peu de difficulté d'apprentissage à l'école, mais lui, il a suivi les cours de sophrologie aussi, et ça a changé complètement. Du jour au lendemain, il n'a pas étudié plus, mais il avait une capacité d'aller chercher l'information, à magasiner pendant l'année, à faire ressortir tout ça lors des contrôles, lors des examens. Alors, c'est très bénéfique, tout ça.
Wow. Tu disais que tu avais un cabinet d'hypnologie, tu as été hypnologue, justement, c'était, et à ce moment-là, c'était au début de ta carrière, tu n'avais pas encore fait des spectacles, vraiment, même si tu as commencé jeune, parce que tu dis dans ton livre, une des premières personnes que j'ai hypnotisées, tu avais quoi, 9 ans?
9 ans, oui, 9 ans, c'était Ghislain, un de mes amis avec qui j'ai fait des tests, et puis c'était, on pourrait dire là, à ce moment-là, un cobaye.
Ouais.
Je faisais des tests, et oui, j'avais réussi à raidir son bras, et on a fait une catalepsie du bras, son bras pouvait plus plier, mais je le croyais même pas moi-même, je pensais qu'il faisait semblant.
Et c'est là que tu as appris une grande leçon de la vie.
Oui.
Ne jamais endormir quelqu'un si tu n'es pas sûr de pouvoir le réveiller.
Exactement. Ça a pris 2 jours avant qu'il revienne normal, mais non, c'est des blagues. Non, mais ça a pas.
Non, mais c'est vrai que c'est une règle pour toi, ça?
Ben, écoute, quand tu commences, j'avais pas d'hypnotiseur autour de moi qui pouvait hypnotiser d'autres personnes que moi, je me pratique à les réveiller. Mais à 9 ans, tu lis des trucs, puis tu fais OK, je vais l'essayer, tu sais. Mais après, tu comprends que, bon, tu as une certaine responsabilité. Hein. Et aujourd'hui, ça me fait moins peur parce qu'on le sait que la personne ne peut pas rester accrochée à l'hypnose. Hein. On va toujours en sortir de l'état hypnotique. Il y a des gens qui se disent, et encore aujourd'hui, qui me disent, moi, je ne veux pas vivre l'hypnose, j'ai peur de rester là, de jamais me réveiller. Mais vous allez toujours revenir au conscient.
C'est pas le coma, là.
Non, c'est ça.
Ça n'a rien à voir, là.
Éventuellement, le sommeil hypnotique se transforme en sommeil naturel. La personne s'éveille comme si c'était l'éveil du matin. Alors, c'est normal. Il y a des gens qui paniquent autour. Je le vois dans ma salle quand je fais des spectacles. Il y en a tout le temps un ou deux qui s'endort dans la salle. Puis là, tu as son amoureux à côté qui il panique. Il dit, écoute, adore, je suis plus capable de la réveiller. Elle ne m'écoute pas. Puis ils ont tous peur qu'elle reste comme ça. Mais...
Ben, Isabelle, on m'a recherché. Je me racontais ça ce matin. Tu allais te voir en spectacle. Puis ça a l'air qu'il y a un monsieur dans le fond qui avait les deux bras en l'air en disant, mesmer, ma femme adore encore.
Oui.
Viens la réveiller.
Oui, ça arrive souvent. Puis, écoute, ça fait partie du show.
Il y a des gens qui sont très...
très réceptifs.
Très réceptifs. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui le sont à ce point-là? Et d'autres, pas du tout, par exemple. C'est une ouverture d'esprit? C'est quoi? C'est le corps? C'est une prédisposition?
Même pas. J'ai travaillé avec les chercheurs à Paris, au CNRS, Centre national de recherche scientifique à Paris. Puis moi, j'expliquais depuis tout jeune, par instinct, qu'on fonctionne comme une radio. Par exemple, moi, je suis branché sur 98.5 FM. J'émets des fréquences et les gens qui sont sur la même fréquence vont réagir. Mais ça, j'expliquais ça par instinct pour essayer d'expliquer aux gens ce que c'était. Mais là, les scientifiques sont venus voir mon show à Paris, puis on fait, écoute, ce que tu dis, là, c'est vrai, puis on est capable de le prouver.
C'est des fréquences?
Oui, on fonctionne par fréquence. Notre cerveau émane une certaine... Ben, il n'y a pas seulement que ça avec l'hypnose, mais c'est une bonne partie
c'est
de ça.
C'est des ondes, en fait.
Des ondes cérébrales et tout ça. Puis on émane, en tant qu'être humain, on émane une énergie. Puis c'est pour ça que des fois, on se dit, ah oui, cette personne-là, je me sens bien avec elle. Puis il y en a d'autres, pour, déjà, dès le départ, tu dis, ah non, elle, celle-là, je ne veux même pas m'approcher. Tu te sens agressé juste à la voir. Tu sais.
D'où l'expression, être sur la même longueur d'onde.
Exactement.
Tu sais que dans le langage, des fois, c'est révélateur.
Alors, il n'y a pas seulement que les phéromones qui créent ça. Il y a aussi cette fréquence, cette longueur d'onde que nous émanons. Et avec les casques à IRM, on a pu le prouver, ça. Quand j'ai travaillé avec les chercheurs, on a mis un casque sur ma tête, des casques sur la tête de gens réceptifs et des non-réceptifs rapidement. Et on a pu voir qu'il y a une connexion qui s'établit avec les réceptifs. Et avec d'autres, la connexion n'est pas là.
Mais c'est donc branché sur tes ondes à toi? Ça serait réceptif à tes ondes personnelles?
Oui, mais en même temps, on peut moduler ça. Et si on a de la difficulté à travailler avec une personne, comme moi, par exemple, moi sur scène, s'il y a une personne que je veux absolument hypnotiser, ben, je peux changer de fréquence et me synchroniser avec cette
personne.
Toi,
tu changes ta fréquence.
Oui, ben, ça se fait à deux. Hein. La personne qui le vit aussi inconsciemment va changer. Il y a une connexion qui va s'établir. Mais quand c'est le fun avec les casques à IRM, on a pu voir ça. La connexion s'établir, les ondes cérébrales se sont ajustées. Et c'est fou parce que là, j'ai pu vraiment le voir sur les ordinateurs et tout ça, le schéma, cette connexion-là. Alors, la science continue d'avancer. Il y a des chercheurs qui sont assez, on pourrait dire, disons qu'ils sont, moi, je les trouve
ouverts.
Ouverts d'esprit, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ils sont assez ouverts d'esprit pour dire, écoute.
Ça se peut.
Ça se peut, puis quand j'ai travaillé avec eux là-bas, ils n'étaient pas payés pour faire ça. C'était juste qu'ils s'amusaient.
C'est de la curiosité.
La curiosité.
Du chercheur.
Et c'est ça.
Parce que c'est vrai que c'est fascinant. D'ailleurs, aujourd'hui, au début, tu t'appelais pas fascinateur.
Non, c'était l'hypnotiseur humoriste, parce que je vais montrer aux gens que c'était drôle.
Mais là, c'est vrai, puis c'est tu sais, on a des mentalistes, il y a des magiciens, il y a des illusionnistes, il y a plein. Toi, t'es fascinateur.
Ouais.
Tu dois être le seul, d'ailleurs.
Oui, parce que j'ai créé le terme fascinateur qui colle à mon spectacle.
Tu déposé, là, tu as un trademark?
Pas encore. Mais ça fait tellement d'années que c'est là, on dirait que c'est comme normal que ça m'appartient.
D'où ça t'est venu, ça? Parce que tu t'es dit, les gens...
J'étais avec mon producteur...
Éric Young,
entourage spectacle, qui était là, puis on a dit, écoute, il faut réussir à enlever le terme fascinateur, parce que c'est pas seulement que l'hypnose... Puis moi, je le savais.
Le terme hypnotiseur, tu
vois. Oui, hypnotiseur, faut enlever ça, parce que les shows d'hypnose, des fois, ça peut être perçu comme les anciens spectacles qu'il y avait dans les années 50, 60, où... je dis, oui, il faut aller plus loin. Puis moi, j'avais le terme fascinateur en tête parce que les gens qui vivent l'expérience sur scène, mais ces gens-là sont fascinés. Ils rentrent dans un état de fascination. Et le public est fasciné en regardant ce qui se passe. Alors, fascinateur, ça collait. Puis ça me sépare aussi de l'hypnose thérapeutique.
Ouais.
Pour montrer aux gens que ce que je fais sur scène, on est là, on s'amuse. Je te montre que c'est puissant, mais en même temps, fascinateur, ça crée le fossé entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose de thérapie.
Et on le dit depuis 15 minutes que tu n'es pas un médecin, ni quelqu'un qui sauve.
T'as déjà des demandes.
Et j'ai des demandes.
Oui, c'est vrai. C'est comme ça sur mon Facebook, c'est comme ça sur mon site Internet où les gens reçoivent 300 à 500 demandes par semaine de gens qui demandent de l'aide, qui veulent se faire traiter.
300 à 500?
Oui, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que mon équipe est formée pour répondre à ces gens-là au bureau. On va les référer au bon endroit. Ceux qui veulent de la thérapie avec l'hypnose, mais il y a l'association des hypnologues qui peuvent les aider.
Mais tu as du monde à temps plein là-dessus?
J'ai des bons relationnistes, oui.
Moi, j'ai deux recherchistes qui reçoivent plein de demandes par jour. Mais 500, là.
On en a beaucoup. Honnêtement, on en a beaucoup.
Ouais. C'est fascinant.
Ouais.
Tu vois, je reviens avec ce mot-là. On revient tout de suite après la pause avec Mesmer, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Moi, ma question, est-ce que vous pourriez vous faire hypnotiser par Mesmer, d'après vous? Malheureusement, vous avez compris qu'on ne prend pas les appels de gens qui ont des besoins très particuliers, des problèmes de santé. Ce ne sera pas le moment. Il nous reste quelques minutes seulement. À tout de suite, tout le monde. Inutile de vous dire que nos lignes sont pleines. On commence avec vous, Cindy. Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, j'ai un drôle de souvenir avec vous. Mesmer, bonjour. Je suis contente de vous parler aujourd'hui.
Merci.
Dans vos tout débuts, écoute, on remonte à 2002-2003 moi, quand je vous ai connu à Rimouski, dans un bar, là, vous savez, des mercredis soirs.
Oui, des soirées d'humour. Oui, des soirées d'humour dans les bars, les cabarets, dans mes débuts. Hein.
Ouais.
Exactement. Et puis, il y avait une de mes amies qui avait resté. Écoute, il y avait eu un numéro où est-ce que vous faisiez pleurer des gens pour y aller au cinéma, tout ça. Et puis, mon amie était restée hypnotisée, mais sans être sur le stage avec vous. Elle s'est mise à pleurer à côté de moi. Elle ne comprenait pas ce qui se passait.
Elle vivait.
Étrange pendant deux jours. On ne savait plus quoi faire.
Ben, c'est parce qu'elle ressentait la suggestion. Elle était très réceptive, puis elle n'a pas monté sur scène, mais elle restait à sa place et regardait le show. Mais des fois, tu embarques toi aussi. Hein. C'est comme quand tu vas voir un film et que tu regardes le film, tu embarques là-dedans. Mais là, à ce moment-là, tu vis l'émotion aussi. Alors, sur scène, c'est comme ça. Moi, je fais vivre des émotions aux gens et des gens réceptifs dans la salle qui vont le vivre aussi.
Il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui m'écrit, merci Cindy, qui me dit, il y a environ 10 ans, j'ai vécu une session d'hypnose. C'était pas d'humour, puis c'était pas avec toi, Mesmer. Mais elle dit, ça m'a fait plein de souvenirs négatifs, toutes sortes d'histoires que je voulais pas brasser. Fait que moi, ça n'a pas été positif comme expérience. Est-ce que ça. Je parle pas de tes spectacles, mais l'hypnose en général peut-elle.
C'est parce que si elle l'a vécu à ce moment-là.
Pour les gens réceptifs, là, justement.
Mais ça dépend dans quel contexte qu'elle l'a vécu. Si c'est en thérapie, c'est normal que les émotions peuvent ressortir. Si on est là pour faire du ménage, on est là pour faire sortir ce qui va pas et de mettre le doigt là-dessus. Puis une fois qu'on l'a trouvé, on peut vivre des émotions, mais au moins après, ça nous permet d'avancer, d'aller.
Et de les régler, peut-être.
Et de les régler,
Jonathan, bonjour.
Salut, ça va bien?
Oui.
Je me demandais, Mesmer, est-ce que tu es immunisé à l'hypnose ou c'est quelque chose que tu as déjà réussi à que quelqu'un te fasse?
Ben écoute, moi, à l'époque, j'ai commencé, j'avais vu Domino, un des premiers hypnotiseurs à l'époque. Moi, il m'avait fasciné à l'époque. C'était mon mentor, on pourrait dire ça comme ça. Et j'ai voulu vivre l'expérience de l'hypnose sur scène avec lui. Mais j'étais tellement curieux de comprendre comment il arrivait à hypnotiser des gens en moins de deux secondes que j'ai resté comme trop conscient. OK, il me touche ici. OK, il fait ça comme comme ça. Alors, je me suis pas laissé aller. Mais j'aurais dû, parce que maintenant, je suis tellement là-dedans que je le fais moi-même, mais je l'ai jamais vécu comme étant un hypnotisé, par exemple, sur un sein.
Mais quelqu'un pourrait te le faire, donc, ben, si tu lâchais prise.
Même
parce
pas.
Que c'est, même pas?
Même pas, parce que je rentre moi-même au subconscient et je suis capable d'en sortir moi-même.
Oh, alors, ben là, tu triches. Là,
ouais, c'est ça. Alors, c'est, pour moi, ça serait difficile de le vivre.
On a Nathalie avec nous. Bonjour, Nathalie.
Oui, bonjour. Écoutez, moi, mon mari est un homme qui rentre très fort. Okay. Et puis, j'avais de la difficulté à m'endormir. C'était vraiment malsain. Jusqu'à un soir où je me suis dit, son ronflement m'endort. Son ouais. ronflement m'endort. Ah, puis bon. Après trois chocs, je tombe endormie. Puis maintenant, je ne peux plus dormir sans lui.
Parce que ah! Comme... Elle est très bonne, celle-là. Je vais essayer ça. Hey, je vais essayer ça, Nathalie.
Alors, ça te prend maintenant un ronflement pour t'endormir.
Oui, alors... je ne l'entends plus durant la nuit. Là. Ça me dérange pas.
Mais... Fait que vous vous êtes auto-hypnotisé, finalement.
C'est ça, exactement.
Ouais. Est-ce que ça peut se faire?
Ben oui, ça se fait. Oui, parce que c'est la conditionnement. C'est créer un conditionnement, une PNL, l'autosuggestion, et ça marche réellement très bien. C'est un peu à l'image de ceux qui dorment et qu'on met le cadran. Bon, à 7 heures, il faut que je me réveille. T'sais. À 6h59, paf, on est réveillé. Parce que notre subconscient le sait que c'est là qu'il faut se réveiller, sans même le cadran.
On est docile.
Oui, mais notre subconscient nous écoute. Hein, et lui, le mandat du subconscient, c'est d'exécuter tout ce qu'on lui demande. Alors, lui, il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Alors, ça, on veut ça. Il faut se le dire de façon présente, de façon positive aussi. Par exemple, la cigarette. Comme il y a des gens qui me rencontrent, qui me disent « Écoute, moi, j'aimerais ça arrêter de fumer. Mm. » Mais arrêter de fumer, ça, à chaque fois que tu éteins ta cigarette, ça ne t'empêche pas de recommencer. Hein. Ouais. Mais lui, le subconscient, c'est les mauvais mots.
Mais on peut faire comme le ronflement de Nathalie, là, de son chum. Là. Ben, on peut se dire aussi « J'arrête. » On peut
ben,
se dire...
Arrêter, ce n'est pas le bon mot. Il faut se libérer de la
libérer,
cigarette.
Voilà.
Alors, si vous vous dites souvent, par exemple, « Je suis libéré de la cigarette. » Un petit exemple. Mon père s'est libéré de la cigarette comme ça. À chaque fois que tu fumes, à chaque fois que tu prends une cigarette, tu te le dis en toi. « Je suis libéré de la cigarette. »
Comme
si...
un mantra, finalement.
Ouais, exactement. Même si tu fumes, ton subconscient, lui, va faire en sorte que ça s'exécute. Alors, c'est une façon, il faut le dire de façon positive et au moment présent, comme si c'était le cas. Je suis libéré de la cigarette. Vous vous dites ça, je ne serai pas vous fumer, vous allez vous en libérer. Après quelques mois, vous allez faire comme aïe, j'ai arrêté, ou j'en fume ben, beaucoup moins qu'avant et ça va se dissiper tout seul.
C'est fou. Ce que tu nous dis, finalement, en conclusion de tout ça, Mesmer, c'est qu'on a beaucoup plus de portée qu'on pense sur notre cerveau.
On est très puissant. On est très puissant. C'est nous, hein, notre meilleur ami, notre meilleur ennemi.
T'es ce soir en spectacle à Terrebonne, demain à Drummondville, la semaine prochaine à Gatineau, au cabaret du Casino de Montréal, 26-27 avril, bien sûr, mesmer.ca. Merci d'être venu nous voir.
On est de retour au Québec pour encore quelques mois. Alors, on a des dates partout.
On va pouvoir profiter de toi. Merci d'être venu.
Merci. Bye-bye.
Merci à tout le monde. On se retrouve lundi. Bye, tout le monde.